dont nous avons besoin pour pouvoir continuer notre marche. Merci aussi pour ceux qui ne sont pas présents. Toi seul, tu sais le pourquoi de leur absence. Maintenant, ouvre le cœur. Saisis l'esprit de tout un chacun pour que ce qui sera dit puisse lui être bénéfique. Et moi, que je ne sois qu'un instrument inutile que tu vas utiliser, Seigneur, et que je me taise et que le Saint-Esprit puisse prendre la place qui lui revient pour pouvoir présenter la parole auprès de ton peuple. À toi l'honneur, à toi la gloire. Je t'ai ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel privilège d'être encore ici ce soir pour une bonne cause. La bonne cause, c'est de venir écouter la parole qui est tout pour nous. La parole est tout pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle est éprouvée. Et comme elle est éprouvée, nous sommes persuadés que vraiment, avec cette parole, nous pouvons la manger sans nous soucier de quoi que ce soit. Alléluia. Sans nous soucier d'avoir une indigestion. Non, parce qu'elle est éprouvée. Nous sommes un peuple dans le besoin, n'est-ce pas? Nous sommes là comme un peuple dans le besoin, quelque chose d'éprouvé. Donc, nous n'attendons que ça. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans Matthieu 4, verset 4, a dit, l'homme ne vivra pas seulement pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, ce soir, nous sommes vraiment heureux parce que nous allons écouter la bonne parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Alors, particulièrement, je suis très reconnaissant au Seigneur de son travail de recadrage qu'il a fait sur le sujet de la spiritualité. Je lui dis vraiment merci pour ce grand travail de recadrage. Il a ordonné toutes les informations qui débouchent sur la spiritualité afin que nous soyons des disciples, que nous soyons des vrais disciples accomplis. Alléluia. On ne peut pas être comme des petits enfants flottant en tout vent de doctrine. Il faut que les choses soient bien précises. En ce moment-là, nous pouvons les classer dans notre carte mémoire. Quand tout est ordonné, alors je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Récapitulons, Jean-Baptiste doit prêcher. Quand Jean-Baptiste doit prêcher, c'est pour pouvoir préparer au Seigneur un peuple qui est disposé. Alléluia. Donc, la prédication de Jean-Baptiste permet de poser l'acte initial de la vie chrétienne. Et quand cet acte initial est posé, nous passons au deuxième niveau. Tu deviens un chantier en construction. Je deviens un chantier en construction. N'est-ce pas? Et quand tu deviens un chantier en construction et que je deviens un chantier en construction, se pose le problème de ta croissance. Alléluia. Tu dois croître pour le salut, puisque tu es né. Et comme tu es né, tu ne vas pas demeurer un éternel enfant. Il faut croître pour le salut. Et nous avons vu toutes les étapes, les facteurs qui doivent te permettre de croître, qui doivent me permettre de croître aussi. Tout cela a été vu. Au quatrième point, l'œuvre qui a été commencée doit être achevée. Alléluia. L'œuvre commencée doit être achevée. Et on a souligné de faire attention sur trois mythes. Vous vous souvenez? Trois mythes, il faut faire attention. Le premier, une fois sauvés, nous pensons que désormais, notre maturité est inévitable puisque nous avons le privilège de nous approcher de Dieu. C'est un mythe. C'est un mythe. Vous vous souvenez du comédien Smirnov Yakov quand il arrive aux États-Unis, n'est-ce pas? Une histoire, un peu de... Non, ça ne se passe pas comme ça. Un peu de... Non. Il faut s'y mettre. Ah! Donc, ce mythe-là, il faut bien le saisir. Le deuxième mythe est de croire qu'avec le temps, nous deviendrons inévitablement semblables à Christ. Hé, papa, c'est faux. C'est faux. Nous avons aussi démonté ces mythes. Quand tu veux devenir un joueur de tennis, mon cher ami, tu dois te présenter chaque fois, au moins 2, 3, 4 fois l'entraînement. Ce n'est pas que tu as pris ton inscription et par an, 2 fois sur une cour, et par rapport à quelqu'un qui est assidu, qui vient de prendre son engagement une année, et depuis une année, il s'entraîne. Tu crois que tu es plus performant que parce que toi, ça fait 10 ans que tu as décidé de devenir un joueur de foot, de tennis. Non. Non. Et le troisième mythe était celui-ci, est de croire qu'il suffit de le vouloir, puisque la croissance spirituelle dépend d'une décision de notre part de chercher à ressembler davantage à Christ. Donc, faire des efforts de ces sens ne suffira jamais. Nous nous sommes appuyés sur l'exemple, bon, tu veux devenir Messi, tu veux devenir Michael Jordan, mais, cher ami, il y a un travail à faire, un travail conséquent, il y a des privations à faire, donc il faut être discipliné. Paul aussi nous a dit, il traitait durement son corps, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il voulait remporter le prix. Donc il ne courait pas comme quelqu'un qui battait l'air. Non, 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 non. Donc tout ça, ce sont des mythes que nous devons éviter quand nous voudrions marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et le cinquième point, tu fais disparaître ce qui est de l'enfant. C'est le sujet de dimanche, n'est-ce pas? La maturité. Alors dis-moi, ton âge civil, 55 ans. Ton âge de l'état civil, 55 ans. Alors est-ce que nous pouvons savoir quel est ton âge spirituel? Quel est ton âge sentimental? Quel est ton âge financier? Hein? Et ce travail de faire disparaître ce qui est de l'enfant, c'est ton travail, hein? Ah! Ce n'est pas le travail de papa ou de maman, mais c'est ton job, toi. C'est toi qui dois faire disparaître ce qui est de l'enfant dans ta marche spirituelle. Alors, en ce moment-là, tu as l'expérience de la parole de justice. Tu n'en es plus au lait. Tu as la qualité de juger de tout. C'est comme cela que vous pouvez maintenant aligner le chrétien spirituel, juge de tout. Ne jugez point, ne jugez, accueillez ceux qui sont faibles dans la foi, ne discutez pas sur les opinions. Vous voyez, toute la structure de la spiritualité, et enfin, vous êtes familiarisés aux secrets de la spiritualité qui sont prière et jeûne, pureté, méditation, pardon et persévérance. Alors là, tu es un disciple accompli. Alléluia. Alors maintenant que tous ces paquets a été ordonné par le maître de la moisson, il y a des choses que nous devons faire. Maintenant, si nous connaissons que tu as qualité de juger de tout, alors c'est le terrain, hein? C'est le terrain qui va nous le montrer. Je vous invite à vous lever pour voir. Ce soir, attention, le HBC2 doit être discipliné, très discipliné pour qu'il puisse, Noah, Habakkuk 2.
J'étais à mon poste.
Oui.
Et je me tenais sur la tour.
Oui.
Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait.
Justement, tu t'es arrêté là. Un HBC2 doit être discipliné pour pouvoir veiller. C'est de la discipline. Alléluia. C'est de la discipline. Et ça ne blague pas. Sinon, à la place de veiller, qu'est-ce que tu vas faire? Je somnolais. Ah, mais ce que le Seigneur voulait te dire, tu ne l'as pas entendu. Et puis, c'est quoi? Tu vas t'écrouler. Alléluia. Un HBC2, c'est quelqu'un de discipliné dans tout. Je voudrais qu'on lise ce... Soir, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. J'y sommes?
Amen.
Alors nous allons lire ensemble, à haute voix, pour dire que nous n'avons pas peur de lui. Comme nous sommes arrivés, il est vaincu. Il a mis la pluie, mais la pluie C'est bon pour tout le monde. Ceux qui ont pris l'excuse que bon, il pleut, bon, je reste à la maison, il fait froid, Eh ben, tu vas somnoler, hein? Alors que tu dois veiller pour entendre ce que le Seigneur va te dire. Dans le sommeil, en somnolant, tu n'entendras pas. Vous savez, il y a des gens qui dorment ici des fois quand on prêche. Et du coup, en dormant, il va se sauter. Amen. Mais tu as dit amen à quoi? Toi, tu es en train de dormir. Hein? Alors, il faut toujours veiller. Très bien. Lisons. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Tout le monde a bien lu cette parabole? Ah! Donc, monsieur, tout le paquet de la spiritualité vient d'être mis en place. Qu'est-ce qui te reste à faire? Tu as tout le paquet en place. Donc, bien ordonné. Tes pensées, bien ordonnées, tu ne peux plus être flottant. Sa parole pour toi ce soir s'intitule de la manière suivante. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. Je veux prendre la parole pour toi ce soir au verset 24 en disant entend et met en pratique. Entend et met en pratique. C'est bien de me citer des versets comme un perroquet. Ça va? C'est très bien. Mais l'aspect le plus complexe et le plus compliqué, c'est la mise en pratique. Alléluia. C'est la mise en pratique qui fait défaut en toi et en moi. C'est bien de dire que je suis un HBC2. Voilà mes notes. Voilà ceci. OK? Es-tu capable de mettre cela en pratique? Puisque nous avons dit que ta maturité sera observée dans tes relations avec les gens au travail, à la maison, la rue, partout où tu vas te trouver. Comment tu entres en relation avec les gens. Et nous constatons que quand tu parles avec les gens, ton langage est toujours malveillant. Tu n'es jamais empathique. Et ta langue, c'est comme une scie circulaire. Tu fais des quarts de tour à moindre contrariété. Donc, tout ce que tu as entendu, théoriquement, OK, mais en pratique, il y a des soucis. Alléluia. Donc, c'est pour cela. Ce soir, on apporte cet élément encore de taille. Tu as entendu. Ok, bravo. Et alors, qu'en est-il de la pratique? Comme nous n'aimons pas être dans l'imprécision, nous voudrions poser les cadres de la prédication en donnant d'abord le sens de notre titre. Entendre est le fait de percevoir, de saisir par l'intelligence des sons. On peut entendre quelque chose sans vraiment prêter attention. Alors, il faut être très attentif. Il y a une nuance entre entendre et écouter. Voici la nuance. Dans le cas d'entendre, il faut retenir. C'est une capacité physique uniquement avec l'oreille. Et dans l'action d'entendre, on est passif. J'entends le vent qui souffle. Et je fais quelque chose? J'entends le vent qui souffle. J'entends la porte qui claque. Dehors. Le sujet est passif quand il entend. En revanche, dans les cas, par exemple, quand tu vas dans Matthieu, la parabole du semeur, l'esprit parle, c'est lui qui écoute et qui ne comprend pas. Voyez-vous? Et j'ai vérifié, puisque ça m'embêtait. Lui, c'est quand on parle d'entendre. Scofield parle d'entendre. Taube parle d'entendre. Et Thompson parle d'entendre. Darby parle aussi d'entendre. J'ai dit, bon, ok, je me calme. Je me calme. Écoutez, dans le cas d'écouter, c'est une capacité intellectuelle qui fait que tu cherches à comprendre.
Amen.
Et tu cherches vraiment à percevoir un son. Tu es actif.
Amen.
C'est une intention consciente de comprendre ou de réagir au son.
Amen.
J'entends du bruit à l'extérieur. Je m'élève. Je m'avance vers la porte. Je tends mon oreille pour savoir d'où vient ce bruit et qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui me dérangeait. Je dis, mais je vais voir un peu dans les autres traductions. On parle de quoi? Effectivement, dans 5 traductions, on parle toujours d'entendre. Alors, entend et met en pratique. Commençons d'abord à comprendre. Avant de parler de l'expression mettre en pratique, comment nous comprenons les noms pratiques? Le nom pratique, c'est une manière concrète d'exercer une activité. Alléluia.
Amen.
Pratique égale manière concrète d'exercer une activité. Point barre. Alors, c'est quoi? Quel est le sens de mettre en pratique? Mettre en pratique veut dire appliquer, exécuter.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Mettre en pratique, exécuter.
Amen.
Une pratique, c'est l'exercice d'une compétence. J'ai acquis une compétence du point de vue théorique. Maintenant, on m'a appris comment enseigner, comment préparer une leçon. Maintenant, monsieur, tu vas préparer ta leçon, tu vas passer devant les élèves et Et nous, nous allons nous asseoir au fond de la salle pour voir comment tu vas mettre en pratique ce que tu as appris. Amen. Ah. Tu as bien compris le chemin. Voilà. Et pour préparer une leçon, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Bon, maintenant, passe devant.
Amen.
Passe devant. Ah, ça commence à coincer, ça commence à faire compliqué. Et quand tu regardes les élèves, tu es en sueur froide. Quand tu regardes ceux qui sont les examinateurs qui sont derrière, tu perds ton contrôle. Ah oui, je sais conduire. J'ai réussi mon examen de théorie. OK. Très bien. Allez, voici les contacts. Devant, l'examinateur derrière. Ah mais non, quand j'ai vu un véhicule qui venait devant moi, alors j'ai paniqué. Et puis, ah non, la pratique, n'est-ce pas? Ah, la pratique. Nous pouvons venir, sortir, tout ce qu'on va nous presser, c'est bon. Mais. Qu'en est-il de la pratique? Qu'en est-il de la pratique? Nous allons passer à la compréhension détaillée. Hein? Compréhension détaillée de notre sujet. Enfin, je vous ai toujours dit, hein, quand nous venons ici, nous lisons des passages, je vous cite les passages, on les lit, mais moi, j'ai eu autant de temps pour remettre le passage qu'on a lu dans le contexte du chapitre. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je vous demande de me prêter votre attention. Pour que nous puissions entrer dans la compréhension détaillée du sujet, nous avons lu le verset 24 jusqu'au verset 26. Mais la bonne compréhension, nous devons remonter jusqu'au verset 7. Mais nous n'aurons pas le temps, voyez-vous. Nous n'aurons pas le temps de lire. Je veux tout simplement faire ce travail de compréhension avec vous. Quand on observe depuis le verset 7 jusqu'au verset 23, le Seigneur est occupé à donner des injonctions sur la mise en pratique de la parole. Alléluia. Pour conclure maintenant ces injonctions sur la mise en pratique de la parole, nous arrivons au verset 24 jusqu'au verset 26 que nous avons lu, n'est-ce pas? Amen. Alors là, il conclut. Le Seigneur, à partir du verset 24, c'est une conclusion des injonctions qu'il a commencé à donner depuis le verset 7 jusqu'au verset 23. Et quand il arrive au verset 24, il conclut. Le Seigneur montre à ses auditeurs deux options qui se présentaient à eux. Ils étaient maintenant responsables de ce qu'ils avaient entendu et devaient faire un choix.
Amen.
Alléluia.
Alléluia.
Ils pouvaient construire sur deux fondements différents.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Le premier fondement, Noah, tu lis le verset 24.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
OK. Le premier fondement est comparé au roc. Amen. Et le deuxième fondement.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
OK. Ça, c'est le deuxième fondement. Le deuxième fondement, c'est le sable. Alléluia. Alors, le fondement sur le roc représente le Seigneur lui-même et les vérités qu'il a présentées, particulièrement la vérité concernant la transformation intérieure. Et là, nous nous retrouvons dans Jean 3, versets 1 et 3, le cas de Nicodème, il ne faut pas lire, qui vient voir le Seigneur la nuit pour des questions existentielles. Tu peux lire le verset 3?
Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Voilà là. Alors, dans quelle situation le Seigneur met Nicodème, verset 4?
Nicodème lui dit,
voilà.
Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
Voilà.
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
Voilà. Ce sont ces enseignements-là, les transformations intérieures et le fondement sur le sable parle de la justice des pharisiens que les gens connaissaient et sur laquelle un grand nombre fondait leurs espoirs. Ils connaissaient tout ce que les pharisiens faisaient. Par contre, en termes de vie, il n'y avait rien. De vie intérieure, de transformation intérieure, il n'y avait rien. Il ne s'agissait que de l'extérieur. Alléluia. Alors maintenant, la mise en scène de la parabole, on vient de lire le verset 24 et le verset 25, un homme prudent, c'est-à-dire un homme avisé, il entend et il met en pratique. Il va bâtir sa maison sur le roc. Quelles sont les conséquences? Sa maison reste en sécurité quand les intempéries viendront, tempêtes, tout ce que tu veux, calamité. Sa maison reste en sécurité. N'est-ce pas? Un homme insensé, c'est-à-dire fou, alléluia, entend aussi la parole. Mais cet homme ne met pas en pratique ce qu'il a entendu. Il va construire sa maison sur le sable. Conséquence, quand les intempéries viennent, la chute de sa maison est très, très remarquable et c'est triste. Pourquoi es-tu venu à l'assemblée? C'est-à-dire, on voit que la personne face à la tempête perd les pédales. La personne face à la tempête perd les pédales. Si tu es derrière elle, oh, tu peux te dire, cachons-nous que la terre s'ouvre pour que je disparaisse tellement que c'est honteux, Noah. L'insensé, le fou, devant les difficultés de la vie, devant les orages de la vie. C'est comme la femme de Job quand elle dit, allez, dis, maudis-le et puis meurs. Lui aussi dit, bon, j'ai maudit ce Dieu-là parce qu'il ne s'occupe pas de moi, parce qu'il est méchant, parce qu'il laisse mourir les enfants. Voilà, un insensé. Alléluia. Amen. Un insensé, un fou. Donc, sa foi était basée sur le sable. Et quand les vents sont arrivés, nous pouvons observer, oh là là, oh là là, oh là là, mais celui-là, sa scolarité n'a pas été bonne. Hein. Il faisait l'école buissonnière, je pense. De temps en temps, il est là, prêt. Maintenant, bon, quand il faut faire des applications, il n'est pas capable de réagir convenablement comme quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu. Alors, quelle est la différence entre ces deux maisons? Quelle est la différence entre ces deux maisons? Mon frère, ma soeur, la différence ne se situe pas au niveau des terrains, ni au niveau du nombre de chambres, ni au niveau de la structure de leur maison, c'est-à-dire le plan que l'architecte a fait. Non. Mais la différence entre les deux maisons se trouve au niveau de leur fondation invisible depuis l'extérieur. Alléluia. C'est au niveau de fondation. C'est pour cela qu'on nous a dit, hé, garde ton cœur. Parce qu'on ne voit pas le cœur. Alléluia. Tu peux bien, blablabla, oui. Blablabla. Mais dans le cœur, il n'y a rien. On se comprend? Dans le cœur, il n'y a rien. Donc ici, le problème, la différence entre les deux maisons, ce sont les fondations invisibles de l'extérieur. Le roc et le sable. Alléluia. C'est ce qui faisait la différence entre les deux maisons. Le roc et le sable. Alors maintenant, ce soir, mon frère qui m'écoute, ma sœur qui m'écoute, question. Sur qui as-tu bâti ta vie? Sur qui as-tu bâti ta vie? Première question. Deuxième question. As-tu choisi la bonne fondation? Ah ouais. As-tu choisi la bonne fondation? Tu as bâti sur le roc ou sur le sable? À toi de répondre. Alors, quel est l'enseignement que nous pouvons dégager de cette parabole? Le Seigneur enseigne sur la pratique de ses enseignements. Pourquoi? Pour établir une fondation solide dans la foi. Une fondation solide dans la foi, Dieu l'a dit. Comment ça se fera? Je n'en sais rien. Tu es sûr? Tu es sûr? Ce matin, j'étais à la rééducation cardiaque. Un monsieur qui vient, c'est un Congolais, on parle, il est de l'Est. Je lui dis, cher ami, il ne faut pas s'affoler. Il faut apprendre à lire les signes du temps. Il dit, voilà, vous les Congolais. Vous ne faites rien. Vous croyez que ce Dieu-là que personne n'a jamais vu, c'est lui qui vient arranger le problème de l'Est. J'ai dit, papa, il faut apprendre à lire les signes du temps. C'est très important. Je lui dis, à chaque moment de l'histoire, il y a toujours une solution. Je lui dis, tu sais, dans la civilisation ancienne, nous avons eu les Perses. Les Perses ont vaincu les Mèdes. Et entre-temps, ils continuaient leur conquête. Ils ont conquis Babylone. Et de Babylone, nous avons l'Empire grec. Et puis, l'Empire romain. Donc, chaque fois, il y a un temps pour toutes choses. Il dit, voilà, tu es encore dans tes religions-là d'éveil. Des églises élevées, voilà, c'est ça les Congolais. J'ai dit, ok, merci, c'est ça les Congolais. Mais je t'ai dit, il faut être sage et apprendre à lire les signes du temps. T'agiter, ça ne sert à rien. Les signes du temps nous montrent à quelle heure nous sommes. Amen. Alléluia.
Amen.
Alors, un HBC2 doit être capable de se dire, au moment où je suis là, Dieu l'a dit. Je veillais. J'étais à mon poste. Alléluia. Et voici ce que Dieu m'a dit. Comme Dieu me l'a dit, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais moi, je suis calme. Alléluia. Moi, je suis calme. C'est lui qui contrôle tout. Le Seigneur enseigne sur la pratique de ses enseignements pour établir une fondation solide dans la foi. C'est pourquoi, quand il enseigne là, il ne s'est pas arrêté en disant à quiconque entend ses paroles. Mais il a ajouté et le met en pratique.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Il ne s'est pas arrêté là. Quiconque entend quiconque entend ces paroles que j'ai dit. Mais l'évangile doit toujours être pratique. Je ne le dirai jamais assez. Le but de toute doctrine, c'est la pratique. Souviens-toi de 2 Timothée 3, verset 16. S'arrête pas, il ne s'arrête pas en disant quiconque entend, mais il ajoute et le met en pratique. Voilà pourquoi toute doctrine doit être pratique. Toute doctrine doit être pratique, mon frère, ma sœur. L'évangile doit te faire sentir que tu as quelque chose à faire en tant que pécheur après avoir entendu.
Amen.
Après avoir écouté. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. À quoi te sert d'entendre la parole si tu ne la mets pas en pratique? Que dit Jacques? Hein? Jacques 1, 22 jusqu'à 25, Noah. Qu'est-ce qu'il dit?
Mettez en pratique la parole.
Ah.
Et ne vous bornez pas à l'écouter.
Uh-huh.
En vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Mm-hmm.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
oui,
il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
Attends, est-ce que tout le monde a compris cette image qu'utilise Jacques? Donc tu vas te mirer et du coup tu oublies, hein, le reflet de ce que tu es. Et est-ce que tu as compris ce parallélisme que fait Jacques? Mais c'est dangereux ça! C'est dangereux! C'est dangereux! Tu sors de ta salle de bain, tu oublies Noah, que non, voici un peu ma physionomie. Tu ne peux pas en fermer les yeux, tu t'imagines, tu dis, ah, voici Noah. Je vois l'image de Noah. Mais ce n'est pas possible, ça. Hein? Ce n'est pas possible. Être un auditeur oublié, c'est grave. C'est une maladie grave. C'est une maladie grave dans ta vie spirituelle. Donc, tu viens ici, tu entends, et quand tu sors, tu n'as plus rien. Donc, toute ta mémoire est vidée. Tu n'as rien stocké. Ah! Tu n'as rien stocké, rien. Alors, frère, mais oui, mais en train de vous époumoner là, en pratique, mais comment on doit mettre en pratique? Comment on doit mettre en pratique? Mon frère, ma sœur, écoute bien, il n'est pas suffisant d'entendre la parole. Tu dois aussi y répondre par une obéissance active. Alléluia.
Amen.
C'est comme cela que tu vas mettre en pratique la parole par une obéissance active. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'esprit de rébellion. Ils ont l'esprit de rébellion et demeurent sourds à la raison. Demeurent sourds à la raison. Mais l'esprit de rébellion, alors là, ils te diront, oh mais oui, mais moi, oui, c'est ça que me disait le monsieur que je croisais ce matin. C'est ça qu'il me disait. Oui, mais moi, je suis cartésien. Je suis cartésien. Bon, je lui dis, OK, tu es cartésien. Bon, moi, je suis un ignare. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah, mais oui, mais vous savez que moi, avant de croire, hein, je suis comme Thomas. Hein. Ah oui, je suis comme Thomas. Hein. L'esprit cartésien. Quel était encore le principe de Descartes? Il ne faut jamais accepter quelque chose pour vrai sans que je la connusse être telle. Qui a encore le principe, c'est ce que Descartes disait là. Hein? Je ne peux jamais accepter tant que... Et en tant que HBC2, nous veillons. Et quand nous veillons et que nous sommes sensibles à la voix de Dieu, hein, la voix de Dieu, c'est un phare pour nous. Alléluia. La voix de Dieu, c'est un phare pour nous. Mais le problème, nous ne sommes toujours pas sensibles à la voix de Dieu. Il n'est pas suffisant d'entendre la parole. Tu dois aussi y répondre par une obéissance active. Dans Jacques 1, verset 22, l'ordre est clair. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques veut tout simplement dire tu dois devenir ou continuer à devenir. Alléluia. Tu dois devenir et continuer à devenir. Si vous n'êtes pas si mal écouté, tu te caches derrière le message de l'élection. Ah oui. Non. Frère, tu entends que Dieu vienne faire ce qu'il te demande de faire. Tu t'abrites derrière ton incapacité, c'est un faux raisonnement.
Amen.
Dans le message sur ta parole, écoutez bien, à la page 12 et paragraphe 29, le messager dit ceci, quand il s'éteignait devant la pierre de la tombe de Lazare, et je peux le voir debout là en tant qu'homme, frêle, pleurant avec les larmes, lui coulant sur les joues. Il savait pourtant qu'il pouvait ressusciter Lazare. Mais il s'agissait là de ses sentiments humains vis-à-vis des gens. Et quand il s'est tenu là à côté de la tombe, il a dit « ôtez la pierre ». Suivez bien. Il savait que quelqu'un devait accomplir une part. Alléluia. Il savait que quelqu'un devait accomplir une part. Donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose,
amen,
c'est à toi de faire ta part.
Oui.
Amen. Alléluia.
Amen.
Vous avez votre part à accomplir. Ôtez la pierre. Oh, l'humain. L'humain. Oh, mais ça fait 4 jours qu'il est là. Mais le Seigneur ne va pas ôter la pierre.
Amen, amen.
Alléluia.
Amen.
Le Seigneur ne va pas ôter la pierre.
Alléluia.
Tu as entendu, mais la mise en pratique, c'est toi. Alors, dans Luc 5, versets 4 et 5, Noah.
Lorsqu'il eut cessé de parler,
oui,
il dit à Simon,
oui,
avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher.
Oui.
Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Oui.
Mais sur ta parole, je jetterai le filet.
Oui.
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons.
Jusque-là. Sur ta parole, Seigneur, je veux jeter. Mais regardez bien. Hein? Il y a une requête du Seigneur. Laquelle, Noah? Verset 4. Voici la requête du Seigneur.
Avance en pleine eau.
Oui.
Et jetez vos filets pour pêcher.
Oui. Jetez vos filets pour pêcher, n'est-ce pas? Quelle est la réaction de Pierre et pourquoi?
Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Ok. Vous entendez la réaction de Pierre? Pourquoi? Pierre était un pêcheur expérimenté. Il savait qu'à cette heure de la journée, les poissons sont en profondeur. Hein? Mais oui, ils ont fui à cette heure-là, mais... Parce que il a sa raison. C'est un expérimenté. Alléluia. Attention, attention. Dans la foi, le raisonnement n'existe pas.
Alléluia.
Dieu l'a dit et il s'est ressaisi. Sur ta parole. Mais dans la réalité des pécheurs, lui, en tant que pécheur expérimenté, ah, aïe, 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 aïe. Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Est-ce que ça ne t'arrive pas?
Si.
Boss, ça ne t'arrive pas. Tu es là. Ah, mais Seigneur. Aïe. Tu as toujours tendance à aider le Seigneur. Tu as prié? Oui. Mais alors, tu téléphones encore. Frère Jean, tu sais, je dois partir voir, on m'a convoqué, mais est-ce qu'il ne serait pas possible que je puisse consulter aussi un avocat? Oh. Tu es devant un dilemme. Ça arrive souvent. Tu dois prendre une décision pour ta vie, mais tu es devant un dilemme. Et mes fils, tu es HBC2.
Amen.
Est-ce que tu t'es mis à ton poste pour dire, Seigneur, voici la situation dans laquelle je me retrouve. Oui. Non, mais Seigneur, bon, ok, il s'est quand même résolu sur
ta parole.
Il jette. Et quand il jette le filet, quel est le résultat? Il est surpris.
Amen.
Donc, déjà là, il doit effacer tout son logiciel de la pêche. Mais oui, tout son logiciel de la pêche, il faut broyer et jeter dans la poubelle. Parce que ça ne correspond pas. Alléluia. Alléluia.
Oui.
Alléluia.
Amen.
Ah. Toi et moi, ce soir, ce sont là les leçons que le Seigneur veut que nous puissions bien saisir. Alléluia.
Amen.
Il n'est pas suffisant d'entendre. Mais il faut répondre par une obéissance active.
Amen.
Pas une obéissance différée. Et une obéissance active. Alléluia. Tu dois faire la volonté de Dieu.
Amen.
Fais la volonté de Dieu, mon cher. Paul, que penses-tu? Lis-nous un peu Colossiens 1, versets 9 jusqu'à 11.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient.
Mais dans quelles conditions il faut que vous arriviez au verset 10 pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Et quelle est cette volonté? Quelle est cette volonté? 1 Timothée 2, versets 3 et 4.
Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Voilà. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand tu parviens à la connaissance de la volonté de Dieu, alors tu dois être censé de la mettre en pratique.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Ton raisonnement dans la poubelle.
Amen.
Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Non. Sinon, sur
ta
parole, Seigneur. C'est comme cela que tu vivras toujours de progrès en progrès dans la pratique de ce que tu as entendu. Ne sois donc pas rebelle à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il t'ordonne de te repentir. Acte 17, 30.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance,
oui,
annonce maintenant à tous les hommes,
oui,
en tout lieu,
mm-hmm,
qu'ils aient à se repentir.
Oui.
Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné.
Oui, on s'arrête là. Donc, mon cher frère, si tu as l'habitude de désobéir à la volonté de Dieu, Dieu t'ordonne de te repentir.
Amen.
Dieu t'ordonne de te repentir. Quand Dieu parle, il faut une obéissance active. Une obéissance active et rien d'autre. Pour terminer, entends et mets en pratique, il est sage d'entendre les paroles du Seigneur et de les mettre en pratique. Celui qui ne le fait pas est insensé, c'est-à-dire fou. Alléluia. Celui qui ne le fait pas est insensé fou. Dans la tempête, la maison de l'homme prudent va demeurer stable, celle de l'insensé aboutirait à la destruction totale.
Total. Amen, amen.
Alléluia.
Amen.
Alléluia. Il y a deux possibilités. On termine. Saisis qu'il y a deux possibilités, deux sortes de chemins et de portes. Matthieu 7, versets 13 à 14.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition.
Oui.
Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent.
Ok. Il y a aussi deux sortes d'arbres et de fruits. Matthieu 7, toujours, versets 15 à 20.
Gardez-vous des faux prophètes.
Oui.
Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Oui.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
Mmh.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Ok, mon frère, ma soeur. Donc, il y a deux possibilités, il y a deux fondements. Hein? Si tu veux construire ta maison sur le roc, tu connais c'est quoi le roc. Si tu veux construire ta maison sur le sable, tu connais c'est quoi le sable. Et quelles sont les conséquences dans chaque voie que tu vas suivre. Et on vient de lire dans Matthieu qu'il y a deux sortes de chemins et deux portes aussi. Donc c'est toujours à toi de faire le choix. Et il y a deux sortes d'arbres et des fruits. Alléluia. Alors, le contraste, puisque chaque fois on nous met deux, le contraste doit être très frappant entre un disciple et un religieux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le contraste doit être frappant entre les disciples accomplis et un religieux. Alléluia.
Amen.
Entends et mets en pratique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Nous allons prier tous ensemble pour que nous puissions rentrer à la maison. Seigneur notre Dieu, merci pour cette opportunité que nous avons eue d'être encore autour de ta table et que tu viens de nous mettre en garde, de ne pas nous limiter à entendre ta parole. Mais nous devons aller plus loin, c'est-à-dire la mettre en pratique. Nous devons avoir une obéissance active. Alors Seigneur, que tu nous aides. Parce que quand tu nous demandes quelque chose, nous devons toujours revenir vers toi. C'est toi qui as le moyen pour nous amener vers le bon résultat. Si nous comptons sur nous-mêmes, c'est l'échec total. C'est l'échec. Si nous comptons sur notre raisonnement, c'est l'échec. Nous voudrions compter sur ta parole tout simplement. Donne-nous, Père, cette conviction que nous ne devons nous référer qu'à ta parole et rien d'autre. Merci, Papa, pour ce moment. Nous qui avons écouté, merci aussi pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'être ici ce soir. Le temps de nous séparer est arrivé. Nous sollicitons ta grâce comme tu nous as permis de venir. Accorde-nous encore cette grâce de retourner chez nous en paix. Si tu nous permets d'avoir encore le temps d'être de ce côté, nous pouvons nous revoir le vendredi et ça sera encore pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi l'honneur, à toi la gloire, que tu puisses nous accompagner. Je te recommande cette modeste prière dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.